Ce matin, donc, nous recevons Pierre Bahurel. Pierre Bahurel est né le 21 avril 1969. Il est océanographe, il est ingénieur au service hydrographique et océanographique de la marine, le CHOM, et chef de projet Mercator depuis 1999. Le projet Mercator est la contribution française au projet international GODAE, Global Ocean Data Assimilation Experiment, qui est en fait de l'océanographie opérationnelle, dont Pierre Bahurel va nous parler dans quelques instants. Parmi ses diplômes, il est donc ingénieur diplômé de l'École Polytechnique. Il est ingénieur de l'École Nationale Supérieure des Techniques Avancées de Paris, en spécialité sciences marines. Il a un DEA de sciences de l'Université de Paris en océanographie, météorologie et environnement. Dans son parcours, je mentionnerai qu'il a été donc ingénieur recherche et développement au service hydrographique et océanographique de la marine, le CHOM, entre 1994 et 1996, où il a fait de l'océanographie spatiale, c'est-à-dire le rôle des satellites dans l'observation des océans. Et il était dans le cadre de ce travail, il a travaillé dans le groupe de recherche de géodésie spatiale qui dépend du CNES, du CNRS, de l'IGN, du CHOM, bien sûr, des observatoires de Paris, Côte d'Azur et Midi-Pyrénées. Et entre 1996 et 1999, il est devenu directeur de projet au CHOM, responsable du projet Soprane, et depuis 1999, donc, responsable du projet Mercator. Il est spécialiste de prévision océanique et en janvier 2001, il a publié le premier bulletin de prévision océanique. Pierre Bahurel a publié des articles dans des revues spécialisées internationales et a participé à des congrès internationaux. Il est membre de l'American Geophysical Union et membre de l'European Geophysical Society.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais commencer par remercier les organisateurs de l'Université de tous les savoirs de m'accueillir ici ce matin et puis à vous tous d'avoir préféré l'océan au soleil qu'il y a dehors. Donc merci d'avance. Je vais essayer de vous transmettre cette passion qui m'anime, qui est cet océan en mouvement et qui est complètement renouvelé depuis une dizaine d'années. J'ai essayé de vous montrer que c'est une véritable révolution et qui cadre complètement avec le sujet de cette thématique des conférences de l'université en ce moment, qui est le renouvellement de science par les observations. Alors ça s'est passé, donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une observation, qui a fait quelque chose d'extraordinaire, qui a fait bouger des montagnes, qui a rassemblé des gens et qui a fait surtout bouger l'océan. Ça s'est passé le 10 août 1992. Alors interrogez-vous mentalement sur ce que vous faisiez le 10 août 1992, mais sûrement ignoriez-vous à l'époque, en tout cas moi je l'ignorais déjà, que donc, c'était le début de la révolution en océanographie. Alors, en août 92, ce qui me concerne, c'était mon dernier été d'étudiant insouciant. Et c'est aussi l'été où j'ai décidé de faire de l'océanographie. Alors forcément, je suis un peu biaisé dans ma façon de présenter les choses. Et forcément, vous allez me voir un peu, aller très rapidement sur ce qui s'est passé avant, et puis considérer que tout a commencé le 10 août 92. Alors je vous préviens, j'ai l'honnêteté de le dire, ça va être un peu biaisé. Mais vous me direz à la fin si vous avez conscience comme moi qu'il se passe quelque chose, qu'il y a plus qu'un frémissement en océanographie grâce aux satellites, qui s'était lancé le 10 août 92, on va y venir. Alors, avant, on va quand même regarder un petit peu de quoi il s'agit, hein, sur quelle planète on vit. Vous savez qu'on appelle ça la planète bleue ou la planète océan, et pour cause, où qu'on aille, plutôt d'où qu'on vienne, on aborde notre planète par un océan. Et donc, on voit l'océan Atlantique, le Pacifique, l'Indien, ou les océans polaires, Arctique et Antarctique. Et elle porte bien son nom, cette planète, parce que 70% de la surface de notre planète est couverte d'eau. C'est énorme. On ne peut pas l'ignorer. Si vous étiez représentatif de la population mondiale, vous tous ici, la moitié d'entre vous habiterait à moins de 100 km des côtes. Et l'autre moitié irait régulièrement voir l'océan. Donc on ne peut pas y couper. Alors si on met quelques chiffres comme ça pour se persuader des choses, 70% de la surface du globe, donc couverte d'eau, 96% de l'eau disponible sur notre planète, c'est l'eau des océans. Donc une profondeur moyenne de 3800 mètres. C'est une fine pellicule d'eau qui fait 1/1700 du rayon terrestre, donc on voit que ça a l'air assez fragile comme ça, mais c'est tellement important, ça transporte autant de chaleur que l'atmosphère, ça peut être 300 fois plus lourd que l'atmosphère. C'est le thermostat du climat, et ceux d'entre vous qui ont assisté à la conférence Jean-Louis Fellousière ont dû entendre parler de cette composante lente du climat, la composante rapide étant l'atmosphère, la composante lente étant l'océan. Et donc on a mille et une raisons d'observer l'océan et de dépasser le spectacle merveilleux qui nous procure, pour s'y intéresser, parce que ça fait notre quotidien. Alors, on va passer comme ça en revue un certain nombre de résolutions, d'étapes par lesquelles est passée l'océanographie. Alors on commence par la première, par le premier réflexe, qui est quand on veut observer l'océan, c'est d'aller voir sur place, d'aller voir in situ. C'est la première chose qu'on fait, on va au bord de la mer, on regarde le spectacle des vagues, on va sur la jetée, et puis si on a de la chance de faire un beau métier comme celui d'océanographe, on prend un bateau et on va voir sur place. Alors on reste un peu frustré parce qu'on reste en surface souvent, on reste à la fenêtre, hein, qu'on soit à la frontière au niveau du continent ou bien à la frontière entre l'océan et l'atmosphère, on ne pénètre pas facilement ce milieu-là, mais enfin on y va. Et depuis plus de 2 siècles maintenant, on parcourt les océans dans tous les sens et il y a des marins durs en affaires qui sont allés extraire des informations. Et grâce à eux, on sait énormément de choses. Alors, on sait, par exemple, où se trouve le Gulf Stream, et ça c'est une des cartes les plus fameuses. Je crois que tout le monde la montre parce qu'elle est vraiment, elle a été faite en 1777 par un certain Benjamin Franklin. C'est la première carte du Gulf Stream. Ce Benjamin Franklin, il était officier des postes à Londres. Il avait remarqué que ces bateaux allaient plus vite quand ils prenaient une certaine route. Donc il a pris quelques mesures et il a cartographié. Il a fait la première cartographie d'une route océanique qui permettait d'aller plus vite en rentrant de New York. Première carte du Gulf Stream. Donc ça, c'était il y a 200 ans, mais on a fait un peu mieux depuis. Et puis maintenant, on a nommé un peu tous les courants et on sait les nommer. Alors, l'océan, c'est donc rempli de grands fleuves, de gros et puissants fleuves océaniques. Alors, le plus connu d'entre eux, l'Atlantique est ici, le plus connu d'entre eux, c'est naturellement le Gulf Stream, là, qui fait ça, et qui transporte, au départ de la Floride, 30 millions de mètres cubes par seconde. Alors, il y a une unité qu'on a choisie qui est le sphère-drup. Alors, toutes les rivières du monde, si on les met toutes ensemble, ça fait un sphère-drup, et donc le stream, il fait 30 fois plus puissant. Alors, pour vous représenter ça, imaginez la Seine qui coule derrière nous, là-bas. Vous prenez la Seine, vous la mettez 100 fois en largeur, et vous prenez 100 couches de cette épaisseur-là, vous arrivez à un sphère-drup. Vous multipliez par 30, vous avez le débit du Gulf Stream, qui est un des courants... Gulf Stream au départ, en plus, qui est à 30 sphères drop à ce moment-là, et puis quand il se détache des côtes américaines, il est à 100, donc 100 fois toutes les rivières du monde. Et le courant circumpolaire antarctique, qui fait le tour du pôle sud, ici, que vous voyez en bas, il transporte 130 sphères drop. Donc on a quand même un océan qui est puissant, qui est traversé, irrigué de fleuves, qui sont, je vous montre ici ce qui se passe en surface, on verra tout à l'heure ce qui se passe en profondeur, c'est des choses qui sont très puissantes, et qu'on a observé par petits bouts, les gens sont allés voir et ont réussi à cartographier cet océan fait de grands fleuves. Alors on a aussi également, pendant ces longues années, expliqué un petit peu ce qu'on observait. On a observé, essayé de comprendre, et puis on est arrivé à montrer un certain nombre de choses. Ici, je vous montre simplement une notion qui est fondamentale, qui est le mouvement du fluide dû à la force de Coriolis. Dans l'hémisphère nord, tout mouvement du fluide est dévié vers la droite, à cause ou grâce à la force de Coriolis, et du coup, sous la forme des vents, on voit des grandes gyres, donc des grands mouvements, et c'est ce qu'on voyait ici, par exemple, dans le Pacifique, vous voyez ces grands mouvements-là, et ça se traduit par une élévation de la surface de la mer, et c'est ce qui fait que l'océan est en fait un océan de creux et de bosses, ce qu'on voit ici, c'est la carte des pressions, comme une carte de météo avec les cartes de pression, avec les vents qui s'enroulent autour, en océano, on a la même chose, avec des creux, des bosses et des courants qui tournent autour. Alors ce que vous voyez ici, c'est vous avez ici le nord, l'équateur au milieu, et puis le sud. Je ne sais pas si vous préférez la souris ou le petit laser. Là. Laser ? Laser. Alors là, vous voyez les vents qui poussent les courants comme ça, et on voit cette gyre qui va se former ici, donc c'est les grands courants. Alors dans l'Atlantique, on voit le Gulf Stream qui va faire ça, ou dans le Pacifique, ça s'appelle le Kuroshio, c'est la même chose, et on a le sens inverse dans l'hémisphère sud, et puis plus haut, ça tourne dans l'autre sens. Donc ça, c'est les grands mouvements, et donc on a expliqué tout ça, voilà ce qui se passe en surface en océanographie. Mais on est aussi allé voir au fond, donc on a trempé des thermomètres très profondément, on est allé mesurer, et là, ce qu'on représente ici, c'est l'océan vertical. La vision moyenne de l'océan vertical, donc ça va de 0 jusqu'à 5000 mètres, c'est vous partez ici du pôle nord, vous allez jusqu'au pôle sud et vous suivez tout le temps dans l'Atlantique la côte ouest, plutôt côté américain. Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous passez ici par nos latitudes. Alors on va s'arrêter un moment ici. Vous êtes en surface près de chez nous, on descend jusqu'au fond. Qu'est-ce qu'on voit? Ça varie énormément de 0 à 1000 mètres. On passe ici, on est à 12 degrés. Ensuite, c'est assez stable, ça descend tranquillement. Et puis, ce qu'on ne voit pas très bien, parce que le graphique ne le montre pas, c'est qu'on a une très forte variation dans les premiers mètres de la surface, c'est la couche de mélange océanique. Et là, cette coupe nous montre qu'on a des eaux profondes qui sont formées dans la mer du Labrador, une eau profonde qui est assez stable en température, dans ses composantes, et qui va glisser, et qui va se déverser au fond de l'Atlantique Nord et on va voir qu'il va beaucoup plus loin. Donc on a également exploré dans sa dimension verticale l'océan, on a fait un certain nombre de moyennes et on est capable aujourd'hui de faire ce genre de cartes. On peut regarder ce qui se passe en salinité par exemple, qui est une autre composante très importante de l'océan. Cette fois, on va descendre l'Atlantique mais en rasant les côtes qui sont plus proches de nous, de côté est. Et là ce que vous voyez c'est le sel avec cette même eau profonde qui est signée en salinité. Et ce que vous voyez ici, ce petit pic de salinité, c'est l'eau méditerranéenne. Parce qu'à cet endroit-là, on a la Méditerranée, qui est une eau qui est beaucoup plus salée, qui se déverse dans l'Atlantique. Et on voit l'Atlantique qui a ici un signal en salinité, donc des eaux plus salées qui se répandent dans l'Atlantique. Donc voilà une certaine vision de l'océan donc, qu'on a pu obtenir à force de mesures et mesures et mesures. Et puis on arrive en 91 à une vision qui est un peu plus complète, qui fait le lien entre la vision de surface et puis la vision verticale, qui décrit la circulation océanique comme un grand tapis roulant. Une goutte d'eau océanique mettant 1000 ans à parcourir ce grand tapis roulant, avec les circulations de surface qui sont en rouge ici, qu'on a vu tout à l'heure, des eaux qui vont ici se refroidir, parce qu'on est au pôle Nord, qui vont se décharger, sous l'effet de la formation des glaces, vont se charger en sel, donc elles sont plus froides et plus salées, donc plus lourdes, elles vont plonger, et c'est une formation d'eau profonde, c'est un point assez très particulier de l'océan, où la formation d'eau profonde dans les eaux du Labrador ici, qui vont se déverser par seuil au fond de l'Atlantique et qui vont aller renouveler progressivement tous les bassins, remonter ici et faire ce grand circuit. Donc, on sait un certain nombre de choses. Et on va passer. C'est la grande aventure de l'océanographie. Quand on va voir sur place, on arrive à en tirer une certaine image. Alors, si on regarde un petit peu comment font les gens aujourd'hui, on va passer très rapidement quelques minutes pour expliquer quels sont les outils de mesure. Des nouveaux océanographes, en tout cas ce qui se passe actuellement quand on va les mesurer in situ, donc sur place, l'océan. La première des choses ici, c'est ce qu'on appelle une rosette. Alors c'est le nouveau thermomètre, hein, mais qui mesure la température, la pression, la conductivité, donc la salinité, et un certain nombre de traceurs chimiques qui sont importants pour donner un âge aux eaux qu'on observe. Et alors ça, c'est quelque chose qui est déployé par un navire océanographique, un navire spécialisé. C'est quelque chose qui est à hauteur d'homme à peu près, hein. Et qu'on va descendre au long d'un câble jusqu'à 6000 mètres de fond. Ce que vous voyez, ce sont des petites bouteilles. Il y a 32 bouteilles. On va à 6000 mètres, on envoie un signal électrique, et la bouteille qui sont ouvertes pendant la descente se ferme, piège de l'eau à 6000 mètres, on remonte un petit peu, et puis à 5000 mètres, par exemple, on recommence l'opération. Et ensuite, on remonte l'ensemble à bord du bateau, et on va un peu plus loin. On fait des stations comme ça où le bateau reste fixe. Ça peut durer des heures et des heures, parce que c'est assez long. Et puis, on a un point de mesure en température, donc sur toute la verticale, température, salinité, pression, et certains traceurs. On déplace le bateau de quelques kilomètres et on recommence. Donc c'est quelque chose qui est assez fastidieux, qui est très très précieux, parce que d'avoir ces informations-là à 6000 mètres, c'est pas si facile, mais c'est le quotidien de l'océanographe en campagne. Donc ça, c'est la vision depuis un navire océanographique de recherche, c'est la vision moderne de ce que les anciens ont fait lorsqu'ils ont trempé leur seau en profondeur, qu'ils ont fermé le clapet, qu'ils ont remonté pour mesurer la température. L'autre façon de faire, c'est d'abandonner des instruments sur place. Donc on fait un mouillage, on fait un lest énorme qu'on va mettre au fond, et puis un flotteur en surface, et puis sur le câble, on va mettre un certain nombre d'instruments. Ce que j'ai représenté ici, c'est des courantomètres qui vont mesurer les courants, comme leur nom l'indique, ici. Et donc on va déployer tout ça sur un bateau, c'est une opération qui est très dangereuse parce que naturellement quand vous larguez un lest de 2 tonnes et que le mouillage d'un coup se met à filer tout droit jusqu'au fond, il faut être spécialiste pour ne pas faire d'erreur, donc c'est le métier des gens sur les bateaux océanographiques. Et on peut laisser ces mouillages qui sont dans des milieux très hostiles et qui ont une durée de vie en moyenne, on va dire 3 ans, mais qu'on relève régulièrement pour aller chercher les résultats. Ça c'est le type mouillage. Et puis ensuite, on peut avoir des bouées, des informations lagrangiennes, donc des informations qui vont dériver au fil des courants. Donc ça, c'est un exemple d'une bouée. Ça, c'est hauteur d'homme, et vous voyez le bas de la bouée ici, avec des ingénieurs qui sont en train de préparer les chaînes de thermistance, parce que sous cette bouée, on a 150 mètres de câble avec des thermomètres. Ce sont des bouées qui vont se balader au fur et à mesure des courants, parce qu'on a lesté et on a mis certains appellent ça des chaussettes, c'est des espèces de gros parachutes qui sont sous l'eau et qui piègent la bouée avec les courants pour éviter qu'elle dérive non pas à cause des vents en surface ici, mais grâce aux courants qui vont se piéger dans dans le matériel qui est dessous. Donc ça, c'est une boîte dérivante. Tout ça, c'est des matériels qui se... Vous imaginez la taille, hein, ici. C'est des appareils qui se déploient par bateau. Et puis, on a une autre formule, parce que le précédent restait en surface, celui-là va plonger. Donc, c'est des appareils qui font 1 mètre, 1 mètre 50, qu'on largue depuis un bateau, qui plongent à 400 mètres, et qui font leur vie à 400 mètres, qui vont dériver avec les courants profonds, et de temps en temps vont remonter à la surface pour travailler des informations, et on va pouvoir mesurer comme ça la pression, naturellement, donc la profondeur, la température, la salinité, et puis si on a mis des bases acoustiques, la trajectoire précise que le profileur a donnée. Donc voilà un certain nombre d'appareils modernes que l'océanographe spécialiste de la mesure in situ emploie aujourd'hui. Et alors ensuite, on peut systématiser dans une région donnée, on met un réseau fixe, ça c'est ce que vous voyez ici, c'est le Brésil et l'Afrique, et il y a un certain nombre de mouillages fixes, hein, donc des grosses bouées de ce genre-là, avec leur chaîne d'instruments dessous, c'est les points bleus ici, qui vont observer une zone, ça c'est la partie atlantique tropicale, et le plus connu d'entre eux est celui du Pacifique tropical, parce que c'est là où est le siège du phénomène El Niño, dont j'imagine on vous a parlé hier dans la conférence sur le climat. Et donc, il y a un certain nombre un grand réseau qui a été installé ici, qui est renouvelé régulièrement, avec des mouillages en orange, des marégraphes, dont je ne parlerai pas, mais qui sont ici représentés en jaune, des bouées dérivantes en orange, et puis ces lignes vertes ici, c'est une autre mesure qui est très précieuse également. On confie à n'importe quel bateau qui part des petits instruments, qui sont des sondes qu'on va lancer dans les ondes perdables. C'est un thermomètre qui va jusqu'à 800 mètres et qui transmet l'information par un fil. Le fil se casse, la sonde est perdue, mais on a une information qui est pas chère du tout et qui est très facile à lancer parce qu'on n'est pas obligé de ralentir le bateau, contrairement à tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant où il fallait des navires spécialisés. Donc il y a des lignes régulières qui sont mises à profit pour avoir des informations en température. Donc voilà le genre de réseau auquel on arrive aujourd'hui. C'est un cas unique, c'est un effort énorme, c'est des bateaux qui sont sans cesse amenés à aller faire la maintenance de ces appareils, c'est des gens qui sont sans cesse en mer, et c'est des discussions politiques sans fin pour savoir qui reprend ou qui continue, donc c'est toujours quelque chose qui n'est jamais acquis. Mais enfin voilà ce qui se passe pour l'océan observé in situ. On le parcourt pendant 2 siècles, et là ce que je vous présente ici, c'est la compilation d'un siècle de mesures in situ, donc voilà ce qu'on sait, on a un océan global, on a nommé les courants, on sait qu'on a ces grandes gyres, donc ces grandes boucles là dans les hémisphères, on les reconnaît ici, qui se traduisent par une élévation de la surface. Vous voyez ici l'élévation de la surface en centimètres. Vous voyez que ce qui est rouge ici est plus haut que ce qui est jaune, par exemple. Donc on reconnaît bien les bosses que je vous ai montrées tout à l'heure. Idem dans la partie atlantique. Donc on a nommé les courants. On voit ici une marge d'escalier qui correspond au courant circumpolaire. On descend d'un mètre cinquante. On sait faire ça. On a une carte de l'océan global. Une carte qui n'a rien à voir avec la réalité. Parce que c'est une vision moyenne. Si vous allez sur place, naturellement, vous n'allez pas rencontrer le courant moyen. Vous allez même éventuellement rencontrer un courant sans sens contraire. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'océan vu de près, c'est un océan qui est très turbulent, un océan tourbillonnaire. Ici, on a zoomé. On est à 1000 km. On est dans la zone des Açores. Ici, vous avez l'archipel des Açores. Ici, vous avez Madère. En atmosphère, là, vous avez le fameux anticyclone des Açores, qui prend toute la page, là. L'océan est beaucoup plus visqueux, plus turbulent. Donc les tourbillons, on retrouve la même chose, le même phénomène, des dépressions d'anticyclones, c'est plus petit, ça fait 100 km de diamètre, donc il y en a beaucoup plus à observer, mais c'est la même chose. Ça aussi, on l'a découvert depuis plus récemment, hein, ça se compte en, on va dire, une vingtaine d'années. Mais on sait qu'on a des tourbillons anticycloniques et dépressionnaires qui vont expliquer les courants réalistes. Là, vous avez une dépression qui se traduit, donc, par un creux dans la surface, dans le niveau de la mer, et puis ici, un bel anticyclone sera dit par une bosse. Et donc, la surface océanique est criblée de ça. Et c'est ça qu'il faut observer pour comprendre et pour voir exactement ce qui se passe. Mais le problème, quand on y va en bateau, c'est que ce qu'on voit, c'est ça. Après un mois de mesure, vous partez des Açores et vous allez jusqu'à Madère, vous avez truffé l'océan de mesures, vous rentrez au laboratoire, vous explorez tout ça, vous faites la carte, vous avez la carte, elle est déjà périmée. Alors on a quand même amélioré les choses, hein. Les modélisateurs s'en sont mêlés, on a inventé des techniques de modélisation dites inverses, on prend quelques informations éparses, on arrive à en faire une belle carte, donc on a quand même progressé. Prenez le cas, imaginez-vous l'Espagne-Portugal ici, vous faites un réseau de mesures pendant un mois, vous avez un objectif scientifique, des soutiens financiers. Vous partez en campagne pendant un mois, vous faites des mesures, vous en tracez la carte. Un an plus tard, d'autres collègues ou vous-même, ou deux ans plus tard, vont faire une campagne dans la région de Madère. Ici, vous reconnaissez Madère. Alors vous aviez vu un petit tourbillon ici. Et puis lui, ce qu'il voit là, c'est que le courant des Açores, qui passe pas très loin, est formé des méandres avec des tourbillons aussi dans la zone. Bon, très bien. Vous prenez tout ça et vous en faites une carte. Et pour ne pas mentir, vous allez faire une moyenne des différentes informations que vous avez obtenues et vous allez moyenner ça dans ce qu'on appelle une climatologie, ou c'est ce genre de carte, c'est-à-dire la vision moyenne de la circulation dans l'Atlantique Nord-Est. Voilà ce qu'on fait. Et donc vous voyez que tout a été moyenné naturellement, mais ça c'est l'information exacte à une certaine échelle de temps. Donc ça c'est une moyenne sur un an, voilà ce qu'on observe comme circulation moyenne. Et donc je clôt ici cette petite partie sur l'in-situ. On se bat un petit peu contre un océan démesuré. On va aller mesurer des choses, on touche à l'information, on arrive à apprendre énormément de choses, on nomme les choses, on mesure des transports, on mesure des vitesses, mais on est toujours repris de vitesse par l'océan. Et le temps qu'on rentre, il a déjà bougé. Et donc on en est réduit à faire des cartes qui sont de plus en plus précises. Il n'y a aucun rapport entre ce qu'avait fait Franklin et puis ce qu'a fait ici le laboratoire de physique des océans, 200 ans plus tard. Naturellement, ici, il y a une information qui est beaucoup plus riche. Mais enfin, si vous donnez cette carte-là à quelqu'un qui part en mer, on ne mesure pas la réalité. Donc ça, voilà ce qui peuple les cartes et donc ce qui peuple les livres avec des cartes de genre. Alors c'est là qu'intervient la fameuse observation qui change tout. Donc là, maintenant, on est au 10 août 92. Et l'océanographie décide d'une révolution. Ça s'appelle la révolution des chaussons blancs. Parce que là, c'est une espèce complètement différente d'océanographe. Ils ne sont plus en sandales, ils ne sont plus sur des plages arrière de bateaux. Ils n'ont plus les traits burinés. Ils sont plutôt blancs, habillés un peu comme des sages-femmes. Et ils sont au chevet d'un satellite, ou plutôt en train de faire naître un satellite. Donc naturellement, le révolutionnaire en question, c'est le satellite, et il a un nom, c'est Topex Poséidon. Lancé le 10 août 92 par une fusée Ariane à Kourou, et à partir de là, tout change. Tout change, plus rien n'est comme avant. Donc là, il y a le avant-après. Alors, pourquoi il est extraordinaire, ce satellite ? Bon, il a été lancé par le CNES, donc l'Agence spatiale française, et la NASA, l'Agence spatiale américaine, pour observer les océans, donc il est dédié à ça. Et alors, plutôt que de faire un discours, je vais vous montrer cette image. Ce que vous voyez en haut, c'est ce qu'a observé Topex Poséidon au bout de 10 jours. Et ce que vous avez en bas, c'était notre cas de tout à l'heure, c'est-à-dire compilation d'un siècle de mesures in situ. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Forcément, on se précipite pour comparer les choses et on retrouve les grandes structures. On retrouve le Gulf Stream ici, le courant Chio, on retrouve le courant circumpolaire antarctique. Et on est forcé de dire, on a beau avoir beaucoup d'estime pour tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, on est forcé de dire que tout va changer. Parce que si en 10 jours, on fait une carte comme ça et qu'on arrive à la même information, apparemment, que ce qui a été fait avec un siècle de mesure in situ, forcément, ça pose question. Et le pire, c'est que Topex Poséidon, il est lancé, il passe 10 jours, il recommence, et chaque jour, chaque 10 jours, il refait une carte. Alors là, forcément, l'océanographie, c'est plus pareil. Et on part dans une phase où on va explorer à fond cette voie du spatial qui forcément va changer les choses. Alors pour comprendre un peu pourquoi et comment ça marche, comment fonctionne ce satellite, il est en plus assez vexant parce que c'est la version du satellite la plus simple possible. C'est un radar qui envoie une onde, qui réfléchit sur la surface de la mer, qui la récupère et qui mesure le temps de trajet, il en déduit la distance entre le satellite et le niveau de la mer. Il n'est pas plus simple comme technique radar. Et donc il fait ça sur son orbite au point. Donc il mesure la distance H1, il continue, il mesure la distance H2, il en déduit qu'il y a une pente, et puisqu'il y a une pente, il y a un courant, puisque c'est la loi de la géostrophie, du tourbillon que je vous ai montré tout à l'heure, donc on le sait. Et il continue, il fait plusieurs passages, il en déduit des cartes où on voit ici un anticyclone avec une dépression à côté. Donc c'est étonnamment simple comme technique et ça fonctionne, mais ça n'a pas toujours fonctionné. Alors avant que la question soit posée, le niveau de la mer qui est observé, c'est une moyenne sur la tâche au sol, c'est une moyenne sur une seconde de tous les échos qui sont recueillis. Ici, vous avez imaginez-vous la place du récepteur du satellite, vous avez un écho, vous le voyez revenir, et donc on commence à avoir les premiers retours, et puis vous en déduisez ici le moment où vous considérez que que l'écho vous est revenu, vous mesurez le temps. Et alors cette moyenne sur la tâche au sol est ce qui fait que vous avez moyenné la hauteur des vagues, hein, et c'est bien le niveau moyen des mers que vous observez. Tâche au sol, donc c'est une moyenne sur 7 km. on prend une, c'est un satellite qui vole à 7 km par seconde, vous faites une moyenne par seconde, vous avez un point toutes les 7 km. Donc on a ça, et puis on a en plus un petit gadget en plus, c'est que comme la surface des... La crête des vagues réfléchit le signal un peu avant le creux des vagues, on peut en déduire la hauteur des vagues. Ce que vous voyez ici, c'est le premier frémissement, là, c'est que c'est l'écho qui a été retourné par la crête des vagues, et puis les derniers, c'est le creux, et vous en déduisez comme ça la hauteur des vagues. Donc c'est un plus, vous avez le niveau de la mer, et en plus vous avez une petite information sur ce qui se passe en termes d'état de mer, c'est-à-dire la hauteur des vagues. Alors après, il y a toute une histoire d'orbite, il faut choisir l'orbite, il faut bien choisir le satellite, la bonne inclinaison, le bon taux de répétitivité, donc le temps de passage pour avoir une bonne information. Là, ce que vous observez, c'est donc une orbite. Hein, moins de 2 heures de temps, il a fait un cycle. Et puis sur un jour, donc, il a couvert cette portion d'océan. Et pour avoir complètement couvert l'océan, il lui faut 10 jours. Et au bout de 10 jours, il repasse au même endroit. Donc on a chaque point qui est observé tous les 10 jours. Donc voilà ce que voit Topex Poséidon. C'est 500 000 observations tous les 10 jours. Donc forcément, ça change les choses. Il n'y a pas que Topex Poséidon, il y a différents satellites comme ça qui ont été lancés. Topex Poséidon, je vais vous expliquer pourquoi, a été le grand révolutionnaire de la cause. Mais là, ce qui est intéressant d'observer, c'est que vous avez deux choses à choisir, c'est la fréquence de répétitivité spatiale ou temporelle. Soit vous faites des traces serrées, dans ce cas-là, vous mettez plus de temps, c'est ce que fait le satellite de l'Agence spatiale européenne, ERS. Il repasse que tous les 35 jours sur le même point, mais il a les traces plus serrées, il est à 80 km entre deux traces à l'équateur, alors que Topex Poséidon, qui est à 10 jours, a lui plutôt un espace de 300 km. Et puis il y a un intermédiaire qui est le satellite de l'US Navy, de la marine américaine, qui s'appelle GeoSat, qui passe à 17 jours, qui a été lancé en 1986. Et il y a un autre satellite qui a été lancé plus récemment, mais qui ne fonctionne malheureusement pas très bien. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, c'est Topex Poséidon, celui-ci, et ERS-2, la deuxième version de ERS. Et donc on combine les informations de ces satellites pour avoir une information qui est fréquente tous les 10 jours et à haute résolution, puisqu'on a 80 km. Alors pourquoi Topex Poséidon a complètement changé les choses? Parce qu'en fait l'altimétrie ça va démarrer en 75 avec différents essais, l'idée avait germé, mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple parce que le but est d'observer les courants océaniques, hein, donc les variations. Les courants océaniques, c'est de l'ordre de 10 cm seconde. Il y a des gros courants comme le Gulf Stream qui font 1 mètre seconde, 2 mètres seconde, mais là, on est dans des. Si on veut avoir un signal correct, il faut descendre à 10 cm seconde. Il faut donc avoir une erreur qui va tourner plutôt autour du centimètre. Or, le satellite fait 2,5 tonnes, il est à 1300 km d'altitude, et vous lui demandez d'estimer cette distance-là au centimètre près. Il y a pas mal d'embûches sur le trajet. D'abord, le signal radar traverse l'ionosphère avec des variations qui sont dues ralenties par les électrons de cette couche-là. Alors là-dessus, Topex Poséidon, enfin les équipes de Topex Poséidon ont répondu en mettant un altimètre à bifréquence. Comme ça dépend de la fréquence, ils ont réussi à débiaiser cette histoire-là et donc à réduire l'erreur là-dessus. Ensuite, on arrive dans la troposphère. Ici, il y a la troposphère sèche, la troposphère humide. Il y a la vapeur d'eau qui également introduit une erreur de 40 cm. Il faut arriver à l'apprécier pour réduire cette erreur-là. Donc, on embarque un radiomètre qui va apprécier le niveau de vapeur d'eau pour pouvoir corriger ça. C'est fait. Et ensuite, on arrive à la troposphère sèche, cette fois, avec des corrections qui peuvent se régler avec des modèles météo. Donc ça, on arrive à descendre au centimètre. J'ai fait ça rapidement, mais vous imaginez que c'est pas quelque chose de si simple que ça. Ensuite, on arrive à la surface de l'océan, les ondes sont réfléchies, et il y a un biais qui est introduit par toujours cette histoire de vagues, puisqu'il y a un autre effet qui est intéressant, c'est que la crête des vagues réfléchit moins bien naturellement le radar que le creux. Donc il y a un biais, on a l'impression que c'est plus bas. Alors il y a des techniques qui sont pas si simples que ça pour arriver à débiaiser ce qu'on appelle le biais d'état de mer. Qui sont utilisés, c'est un des points qui est encore le plus à travailler aujourd'hui. Bon, et puis une fois que c'est fait, le radar est revenu, l'altimètre le récupère, et si on a un bon altimètre, il arrive à descendre également à des précisions correctes, et c'était le cas pour Topex Poséidon, donc très bien. Il reste une chose à régler, finalement, historiquement, c'est l'erreur principale. C'est que c'est bien beau d'avoir estimé cette hauteur-là, mais si on ne sait pas où se trouve le satellite, il nous manque la référence. Donc en plus, il faut arriver à positionner le satellite au centimètre près par rapport à un système de référence. Donc le satellite, je répète, c'est quelque chose qui est assez énorme et qui est assez loin, qui vole à 7 km par seconde. Alors il y a différentes techniques qui ont été utilisées, mais celle dont on retiendra que c'est celle qui a précipité le succès de Topex Poséidon, c'est le système d'orbitographie de risque, un système français, qui va envoyer des ondes radio et par effet Doppler arriver à estimer la vitesse du satellite à 0,3 mm par seconde. Et ce qui fait qu'on arrive à positionner le centre de masse du satellite au centimètre, alors qu'il est à 1300 km. Et puis, parce qu'on a en plus des gens qui savent modéliser les mouvements du satellite, du panneau solaire ou autre chose, on peut en déduire le mouvement respectif de l'altimètre ici par rapport au centre de masse du satellite. Naturellement, il y a une différence et on arrive à descendre en dessous d'un niveau d'erreur qui permet de travailler. Ce que vous voyez ici, c'est différentes missions satellites, 75, 78, 86, 91, 92. Et la barre fatidique, c'est les 10 cm. Il fallait descendre en dessous de cette erreur-là pour pouvoir commencer à travailler. En rose, c'est l'erreur d'orbite. On voit que c'était le problème principal. En bleu, le bruit de l'altimètre, donc la qualité du radar lui-même, la correction de la ionosphère, de la troposphère, et puis ce biais électromagnétique, c'est l'histoire de la flexion au niveau des vagues. Alors on voit qu'avant le lancement, les ingénieurs du CNES et la NASA avaient annoncé des spécifications qui allaient juste affleurer le nécessaire pour pouvoir travailler correctement, et qu'après lancement, ils ont fait beaucoup mieux. Donc c'est là que tout commence. Alors à partir de là, on joue. On joue parce qu'on a un satellite qui vole et tous les 10 jours, on nous refait une carte de l'océan, qui nous redessine l'océan comme on voit ici. Alors on peut faire plein de choses. On peut par exemple survoler le Gulf Stream et vérifier que, comme la théorie le dit bien, on va trouver une marge d'escalier, puisqu'on a un courant. Donc on doit trouver une élévation de la surface d'un certain côté, un creux d'un côté et une bosse de l'autre. Donc prenez le Gulf Stream qui est repéré ici par une carte de température. Vous voyez le satellite qui va voler ici. Et ce qu'on observe là, c'est la mesure du satellite, donc vous observez bien cette marge d'escalier, puis ça c'est différentes dates, et on voit donc qu'on peut suivre les mouvements du Gulf Stream. Premier genre d'application, on peut naturellement décider de faire des moyennes tous les 3 ans, puis tous les 3 mois, et voir les saisons de l'océan. Ça c'est la première année de vol de Topex Poséidon, et on a observé les saisons. Quand c'est rouge, c'est plutôt élevé, donc plutôt chaud, donc c'est plutôt notre été, enfin l'été océanique, et puis quand c'est bleu, c'est les eaux plus froides, donc plus basse. Alors ici c'est l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Ce qu'on observe, c'est que vous avez un réchauffement de l'hémisphère nord ici en automne, il y a un décalage en fait. L'océan, il a son été un peu plus tard que notre été à nous dans l'atmosphère. Et puis, idem ici, vous voyez que vous avez ici des eaux plus froides, je ne vois pas très bien en fait parce que je suis tourné dans l'autre sens. Vous avez également le décalage ici avec des eaux plus... les eaux chaudes qui se passent côté sud. Alors ça, donc, on peut regarder les saisons, on peut aussi regarder le niveau moyen d'un bassin particulier, ça c'est la Méditerranée. La Méditerranée, on regarde le niveau moyen de la Méditerranée juste après le lancement pendant 2 ans. Qu'est-ce qu'on voit? Un maximum par rapport à la moyenne à zéro, un maximum de 10 cm en octobre, donc toujours ce petit décalage, ça se réchauffe, mais avec un peu de décalage par rapport à l'atmosphère, et puis un minimum en mars, à la fin de l'hiver. Et puis l'année suivante, ça recommence, et donc on peut regarder les cycles ici de la Méditerranée. Et on peut faire ça sur plus longue distance et moyenner ça sur tout le globe pour voir si oui ou non le niveau de la mer augmente, comme on le dit. Alors ça, c'est le plus fin mesureur de niveau de la mer, et c'est à partir de ce genre de mesures qu'on a pu travailler vraiment sur ce sujet-là. Ce que vous voyez là, c'est sur 6 ans et demi de vol de Topex Poséidon. Les points de mesure sont des points à chaque cycle. Et on regarde, et qu'est-ce qu'on voit? Une augmentation de 1,8 mm par an, avec une erreur de 0,2 mm par an. Alors là, il y a deux choses à dire là-dessus. C'est que, un, on arrive donc, avec ce genre d'appareil, à avoir des très hautes précisions, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Et deuxièmement, parce que ce satellite vole si longtemps, on peut avoir des références dans le temps qui nous permettent d'apprécier des variations qui commencent à toucher à la variation à l'échelle au-delà d'une saison. On commence à apprécier des phénomènes climatiques. Et c'est d'autant plus, on voit aussi que là, la révolution est là également, parce qu'auparavant, qu'est-ce qu'on faisait? On allait en mer et on avait des observations un peu isolées, on n'arrivait jamais à avoir des observations suivies, c'était toujours des petites périodes, et même quand on mettait des mouillages fixes, ça ne durait jamais assez longtemps pour observer vraiment des biais. Donc là, on a un système d'observation qui est assez phénoménal pour ça. Et puis, petit gadget aussi, on peut aller regarder les hauteurs de vagues et puis suivre des navigateurs pendant le Vendée Globe. Ce que vous voyez ici, c'est des hauteurs de vagues qui sont à 10 mètres dans le rouge, et puis à 4 mètres dans le... dans le bleu ciel. Donc là, c'est Dubois et Bulimer. On voit qu'ils sont en plein dans des vagues de 10 mètres. Là. Qu'ensuite, les vagues se déplacent un petit peu. Ils ont un peu la paix le lendemain, le 5 janvier, et qu'après, ils reviennent là-dedans. Oui, mais voilà. On a bien joué avec ce satellite. On a passé 3 ans à jouer avec ça. On s'est extasié. Mais il est temps de revenir un peu aux fondamentaux et de regarder, de retourner voir les gardiens du temple et de voir si oui ou non il y a un rapport entre ce que voit ce satellite et ce qu'on voit depuis tout le temps avec des mesures in situ. C'est ça la vraie vérité. Il faut toujours retourner voir sur le terrain pour savoir si c'est vrai ou pas. Ce que vous avez ici, c'est le fond des Açores. C'est un courant qui passe donc près des Açores, qu'on a déjà vu tout à l'heure, vu par la référence, les mesures in situ. Ici, c'est réseau hydrographie, donc c'est les rosettes qu'on plonge et on fait ça pendant un mois. On arrive à positionner le front. Donc ça nous dit que le front des Açores est orienté nord-sud ici, ensuite est-ouest, avec une inclusion d'eau froide. Donc en pointillé, c'est les anomalies négatives. Hein. Donc un tourbillon plutôt froid ici. Ça, c'est la même chose, mais vu par des bouées dérivantes. Il nous dit à peu près la même chose, hein, avec quelques variations, mais ça, c'est la vérité du terrain. Ce qui est en noir, c'est ce qui est non observé. Ensuite, on fait voler les satellites et on compare. Alors, on demande d'abord au satellite ERS1, c'est celui qui passe pas très souvent, mais très serré, et puis à Topex Poséidon, qui lui passe très souvent, mais qui a des traces plus larges. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit ici qu'on considère que c'est non valable ici, parce qu'on est dans l'intertrace du satellite. Et bien, le satellite, il s'en sort pas si mal, puisque lui aussi, il voit ce front nord-sud. Il voit cette structure anticyclonique avec cette inclusion de dépressionnaire ici. Et puis Topex Poséidon, ben, c'est pas mal aussi. Vous voyez, on retrouve la même chose. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'on combine les deux. Donc là, ils ont gagné leur examen de passage. Et là, il y a une grande question, et c'est là que tout bascule. Et c'est là qu'on donne en fait le rythme d'une révolution. C'est-à-dire qu'on était en 92, tout a démarré. Et là, ça pouvait s'éteindre ou partir un peu n'importe comment. Et les gens ont signé un pacte. Ils ont dit, tous les 3 ans, on va refaire un coup. En 92, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Tous les 3 ans, on refait un coup. On est en 95. Et là, les gens signent un pacte. Alors ce pacte, c'est la règle de 3. C'est vrai, hein, c'est... En juin 95, il y a 30 océanographes qui représentaient un peu toutes les communautés qui se sont retrouvés dans le Périgord, qu'on fait le point. Alors, il y avait des gens qui faisaient des modèles, des spécialistes d'in situ, il y avait le chef de projet Topex Poséidon, des ingénieurs, des techniciens, des étudiants, il y avait un peu tout et n'importe quoi. C'était des gens qui ont décidé de faire cause commune. On dit, bon, très bien, on a un outil formidable, le satellite, on a des outils merveilleux au point d'in situ, on a une connaissance qui est en train d'exploser en modélisation, on va combiner tout ça, et on va, à partir de maintenant, 95, conjuguer tous nos efforts pour arriver à quelque chose d'encore plus sensationnel. Donc le coup de 95, c'est ça. La révolution de 95, c'est de dire tous pour un. Un pour tous pour un. Les gens du satellite, les gens de l'institut et les gens des modèles vont tous faire cause commune pour arriver à modéliser, représenter, observer, comprendre l'océan. Donc voilà ce qui se passe en 95. Et donc là, c'est l'occasion d'introduire le troisième larron de la bande qui est le modèle assimilateur. On a donc le satellite qui observe parfaitement la surface. On a les gens l'institut qui mesure bien l'océan vertical, et il faut quelqu'un pour intégrer tout ça et conjuguer et transformer ça en un champ tridimensionnel, à 4 dimensions avec le temps, de façon cohérente. Donc c'est là où on introduit le modèle, et je ne vais pas rentrer dans le détail de la modélisation, mais c'est aussi quelque chose qui a énormément évolué depuis ces 5 dernières années, avec l'arrivée du satellite qui a fourni une foison d'informations. Donc le principe d'un modèle, c'est assez simple. Hein. En tout cas, simplement dit, ça se résume à ça. On coupe l'océan en petites boîtes et on regarde les règles qui doivent régir les rapports entre les petites boîtes. Donc j'ai des informations sur le cube blanc ici et j'ai les lois qui doivent régir en température, en salinité, tous les rapports entre les différentes petites boîtes. On a les équations de base qui sont les équations de la mécanique des fluides géophysiques. Et puis, on se donne un certain nombre de critères qui doivent être conservés, la masse, le sel, etc. Et on arrive à en déduire une information complète de façon cohérente. Et ça a plein d'avantages. Ça permet d'avoir une cohérence au niveau spatial. Ce qui est vrai, il y a un rapport entre ce qui est dit ici et puis ce qui est dit ici. Une cohérence temporelle. On peut garder en mémoire tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Au moment où je vous parle et que je vous donne une sortie d'un modèle, il a gardé en mémoire ce qui s'était passé précédemment. Et il sait également prévoir ce qui va se passer derrière, si on le laisse dériver dans le temps, il va prévoir. et puis une cohérence intervariable. Quand on vous donne une information sur la température, il sait la traduire en salinité ou en densité, etc. Donc c'est un outil qui est assez extraordinaire et qui permet d'avoir un état donné, un instant T, et puis de passer à l'état T plus 1 au lendemain, par exemple. Et après, il faut une dernière chose. Parce que là, les gens des modèles, on peut aussi les laisser dans un labo et puis les laisser travailler tout seuls. Ils vont faire un océan modélisé, virtuel, qui n'aura pas forcément grand-chose à voir avec les observations, avec la réalité. Donc la technique qui permet de mettre tout ça en cohérence, c'est la simulation de données. C'est donc ce qui consiste à prendre les observations réalistes et à forcer le modèle à ressembler à ce qui se passe dans la vraie vie. Donc la technique est simple, on prend le modèle, il part d'ici, il va arriver à un instant donné, on l'arrête, voilà ce que nous a donné comme information le modèle, ce qu'on a observé c'est ça. On imagine qu'il y a un indice de confiance à l'information du modèle et à l'information de l'observation. L'observation n'est pas forcément parfaite. Et on décide de repartir d'ici et on recommence. Et ce faisant, on arrive à contraindre le modèle à rester sur la bonne trajectoire. Excusez-moi, j'ai besoin d'eau douce. Et voilà ce qui s'est passé. Depuis que je vous parle, voilà ce qu'on a fait. On est passé de la gauche à la droite. On a mis l'océan en mouvement. Je vous l'avais annoncé. Je vais vous prouver. Vous avez l'océan de départ, vous le reconnaissez, là, c'est la vision moyenne de l'Atlantique Nord-Est. C'est ce qu'on savait faire avant. On va faire voler Topex Poséidon. Voilà. 10 août 92, il passe. Il observe, il n'est pas d'accord. Il voit bien, lui, qu'il a observé différentes choses, qu'il y a des anomalies, des creux, des bosses, etc. Il le dit. Le modèle le prend en compte. On assimile ça là-dedans. Et le modèle, vous allez le voir bouger au fur et à mesure que le satellite bouge, et vous allez observer qu'il se met d'accord avec l'altimètre sous la trace, mais également ailleurs, parce que c'est la force du modèle. Donc on va le laisser voler. Et voilà l'océan, voilà ce qui s'est passé en fait pendant ces dernières années. Voilà la révolution, elle est là. On avait un océan qu'on était capable de représenter au repos, et à partir de là, on voit l'océan qui bouge. Et on voit maintenant les tourbillons qui se forment. Vous voyez ici ces tourbillons là qui commencent à vivre, et puis qui sont régulièrement encadrés. Là, vous voyez le front des Açores, et là, il est gentil, il est un peu calme, hein, c'était la version moyenne, et progressivement, le satellite va le mettre dans l'axe, ça y est, il commence à lui mettre un méandre. Vous avez une belle dépression ici qui est en train de se former, qui va être régulièrement recadrée, parce que le modèle n'est pas forcément parfait, et on voit l'océan qui se met à vivre. Donc voilà ce qui s'est passé, et voilà la trace visible de la révolution du satellite et de l'introduction dans la modélisation. Examen de passage, ne jamais oublier ça. Ce qu'on a fait là, le satellite a passé son examen, on l'a comparé aux observations. Le satellite assimilé dans le modèle doit être comparé aux observations, sinon il n'est pas qualifié. Ce que vous voyez ici, en fond de carte, c'est le même modèle que tout à l'heure qu'on a vu bouger. Et donc il a l'information de Topex Poséidon et de reste là-dedans. On va le faire bouger et on a largué des bouées, qu'elles soient rouges ou noires, n'a peu d'importance aujourd'hui. Et on va voir pendant 4 jours ce qui se passe. Elles se déplacent, le point là, c'est là où elles ont été larguées, et donc elles se déplacent dans ce sens-là. Si elles suivent les tourbillons comme l'océan, il n'y a aucun rapport, naturellement, les observations in situ n'ont pas été données au modèle qui ignore qu'elles sont là. Hein. Il n'y a pas d'assimilation. Donc s'ils réussissent l'examen de passage, le modèle rentre dans la catégorie des grands en océanographie. Et on voit que c'est pas si mal. Vous voyez ici comme elles suivent bien, là, gentiment. Elles s'enroulent autour du modèle, autour du tourbillon qu'avait prévu le modèle. Donc là, on est assez content de ça. On voit bien comment cette petite dépression. On voit également comment le modèle avait refermé cette structure-là et comment c'est confirmé. On voit des choses qui sont moins plaisantes. Par exemple, là, elles ne suivent pas du tout ce qui était dit, donc ça prouve qu'il y a des progrès à faire. Mais enfin, on y est arrivé. Alors, à partir de là, on est arrivé les 3 ans. On arrive à une autre étape. Et cette fois, c'est c'est plus comme avant. On veut plus avoir de décalage entre ce qu'on observe et ce qu'on voit. On veut plus avoir un satellite qui observe des choses et puis attendre un mois pour avoir le résultat. On veut plus avoir des observations qu'on va déployer et puis rentrer et avoir 6 mois au laboratoire. On veut voir ce qu'on observe. On veut du temps réel. Et ça, c'est encore le satellite qui va nous l'apporter. Parce qu'on demande là aux satellites, aux gens de l'in-situ, aux gens des modèles, de commencer à travailler en temps réel parce qu'on veut être complètement en phase avec notre océan. Et c'est le satellite, comme d'habitude, qui donne le mouvement, qui stimule et qui relance la machine qui commençait déjà à se gargariser d'avoir réussi à assimiler les observations de satellites dans un modèle et de comparer, etc. Ça, c'est une carte de Topex Poséidon et de RS2 combinés qui nous donne la situation au début du mois. Donc c'est des choses que vous trouvez sur le web aujourd'hui. Et ça nous dit que c'est à peu près normal, hein, tout va bien, on a des eaux chaudes ici. Et on nous annonce un El Niño qui devrait arriver, mais pour l'instant, on ne voit pas trop de traces dans les données. Et là, en fait, il y a un gros point important à ce stade-là, c'est qu'on voit bien que la machine s'emballe. Si vous avez suivi, on est sur le point de faire quelque chose d'assez extraordinaire. On est en train de préparer un système où on va être capable de représenter l'océan en 3 dimensions, dans tous les sens. Mais soit on y va, soit on n'y va pas. Et donc là, tout d'un coup, on fait une petite pause et on se dit, est-ce que oui ou non, ça sert à quelque chose, ce truc-là? Parce que si ça sert à quelque chose, on y va, et dans ce cas-là, l'océanographie opérationnelle s'installe et tout le monde met le paquet pour que ça marche. Sinon, on calme un peu le jeu, parce que sinon, on est en train d'emballer complètement les choses. Alors, les premiers auxquels on pense, c'est les gens de mer, qui vivent en mer, qui vivent ou sur l'eau ou qui en vivent. Et alors, naturellement, on comprend que ça pourrait éventuellement leur servir quelque chose d'avoir une information, parce que ça, c'est ce qu'ils avaient avant. Hein. Ils partaient avec leur livre, ils avaient la vision imaginée qui part dans cette zone-là. Naturellement, à partir du moment où on sait faire une carte en temps réel et leur dire exactement ce qu'on a comme tourbillon, ça peut changer. On va prendre le pêcheur, par exemple. Mettez-vous un instant à la place de quelqu'un qui va pêcher et qui connaît les habitudes des poissons, au lieu de naviguer au hasard, il va aller directement sur les fronts chauds, fronts froids, parce que c'est ça qui l'intéresse. Prenez le cas d'un patron à sa passerelle. Navigation, s'il veut aller d'ici à ici, s'il prend la ligne droite, il va avoir des courants dans le nez. Il suffit qu'il aille un peu surfer sur l'anticyclone et il peut gagner du temps et de l'énergie et du carburant. Prenez le cas du chercheur qui veut observer un tourbillon. Qu'est-ce qu'il faisait jusqu'à maintenant? Il partait en mer avec sa carte de la vision moyenne. Et il mesurait, et quand il avait vu quelque chose bouger, il refaisait demi-tour. Là, il va directement sur le tourbillon. Prenez le cas de l'offshore, qui va forer de plus en plus profondément, qui ont des appareils, des ombiliques souples. Ça peut être dangereux. Dès qu'il y a des forts courants, ça devient dangereux, donc il faut cesser les opérations. Bon, ben là, on peut lui dire qu'il est dans une zone calme et qu'a priori, les dépressions qui sont dans la zone vont plutôt aller vers l'ouest, donc il est tranquille, il peut travailler. Prenez la Marine nationale, qui a été un des premiers à voir le coup venir, qui joue beaucoup avec l'acoustique entre les bateaux et les sous-marins. L'acoustique, les ondes acoustiques sont soumises aux variations, sont très sensibles aux variations du milieu, température et salinité. Il joue au cache-cache avec ça. Ben lui, il va aller se cacher au même endroit que les pêcheurs. Donc, de toute façon, on sent qu'il y a quelque chose. Donc, on est convaincu que les gens de mer sont intéressés par ça parce que ça permet d'apprivoiser un peu l'océan dans lequel ils vivent. Éventuellement, ça ne suffit pas. Alors, bien sûr, on n'oublie pas les premiers, là, les gens de science, qui sont tout le temps en train de démonter et remonter la machine. Là, ils ont un système de référence. Ils ont un modèle qui va assimiler toute l'information, ils ont un système complet qui va leur donner des informations. Donc eux, ils sont acquis à la cause. Ça ne suffit pas, alors on va se mettre la moitié de la population mondiale avec nous, puisque la moitié de la population du monde vit à moins de 100 km des côtes. On voit bien que tout l'impact de l'océanographie côtière, des aménagements du littoral, etc., peuvent avoir un gros intérêt à avoir un océan bien modélisé. Et puis enfin, si ça ne suffit pas, on va prendre tout le monde, puisqu'on a dit que l'océan était la composante lente du climat. On a intérêt à avoir un océan. Donc, OK, le besoin est clair et on y va. Donc là, on passe à la vitesse supérieure et les grandes agences françaises disent, bon, bah, très bien, puisque c'est ça, on y va. L'idée du triptyque, on l'a en tête, il y a les 3 composantes et on met un nom là-dessus et on démarre les projets et c'est parti. Alors, pour le satellite, Topex Poséidon, c'était un démonstrateur, on va lancer une filière opérationnelle, on va l'appeler Jason. Pour les aspects in situ, il faut faire plus que ça, parce que d'aller observer comme on peut et être régulièrement en train de refaire. Il faut avoir un grand projet, on va l'appeler pour la composante française Coriolis, et puis le modèle IDEM, c'est un effort énorme, c'est des modèles qui sont, euh, qui sont de très grandes dimensions et qui tournent sur les supercalculateurs qui sont utilisés pour les modèles d'atmosphère. C'est quelque chose qui ne passe pas du tout inaperçu dans le paysage. On va créer un projet qui s'appellera Mercator. Alors le satellite Topex Poséidon, il est là. Le CNES dit en 2001, Jean Chasson 1. Vous êtes en plein dans l'actualité. Hein. Ça va se passer juste à la fin de l'été. Et puis je suis déjà en train de discuter de la filière parce qu'il faut avoir quelque chose de permanent. Donc le voilà pour la beauté de l'image. Voilà Jason 1 qui va prendre le relais Topex Poséidon qui aura 9 ans de bons et loyaux services. Coriolis, on dit, bon, là c'est pareil. L'Institut qui s'était un petit peu calmé, il dit, bon, ben, moi je vais en lancer 3000. Je vais avoir 3000 profileurs, c'est-à-dire 3000 points de mesure régulièrement répartis sur le globe pour avoir des températures et salinités sur la verticale. Très bien. Pour ça, je vais dépoussiérer un petit peu mon matériel, je vais prendre ces profileurs profonds et je vais leur permettre de... Je vais les larguer, ils vont se déployer à 400 mètres, naviguer, de temps en temps ils remontent, ils transmettent par Argos, ils redescendent, ils restent 3 ans. Je ne vais pas vous le montrer celui-là. Et puis, on dit, bon voilà, on a Mercator, qu'est-ce qu'on veut pour Mercator? On veut être capable d'avoir une bonne vision de tout ce qui se passe en Atlantique et au niveau global. On va y aller progressivement, mais on veut dès 2001 avoir quelque chose qui est décrit en Atlantique. Et puis en 2002, vous allez nous faire la même chose, mais à plus haute résolution, c'est-à-dire avec une maille de 5 km pour voir tous les petits tourbillons, et vous allez rajouter la Méditerranée, et vous allez commencer à faire des cartes au niveau global. Et puis en 2003, vous allez faire tout en même temps, c'est-à-dire vous allez avoir un grand modèle au quart de degré, donc 25 km de maille au niveau global, qui est un truc énorme, et puis la même chose. Donc voilà comment vous allez y aller. Et tout ça, ça nous amène à la dernière partie qui est, maintenant on en est à un point où on veut l'océan chez soi. On veut avoir un océan virtuel chez soi. Alors allons-y. 2001, on a dit qu'on y était, on lance Jason, on fait le premier bulletin Mercator d'océanographie opérationnelle, et puis on lance les premiers profileurs Coriolis. Donc c'est parti. 17 janvier, la machine démarre. Le premier bulletin encadré dans tous les bureaux qui dit voilà, on a prévu le 17 janvier la situation pour le 31 janvier, 15 jours à l'avance, on vous a dit. On a fait tourner donc tous les modèles, on a récupéré les informations du satellite, on a fait tout ce qu'il fallait, et on a dit voilà quelle est la situation dans l'océan Atlantique nord et tropical au 17 janvier. Et maintenant, on change complètement. On est en train de revisiter, avec cette impulsion-là, l'océanographie. Voilà la température qui est prévue dans 15 jours, pour le 27 juillet. Alors, qu'est-ce que vous pouvez choisir l'endroit où vous allez partir en vacances dans les 15 jours. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez, pour ce que j'en vois, hein, vous avez l'isotherme 20 degrés, elle est au sud de l'Espagne, là, ce que je vois là. On ne voit pas très bien, on va couper en tranches. On va regarder un petit peu. Alors, on voit quand même que côté américain, ils sont mieux servis que nous. Hein, ils ont des eaux plus chaudes, mais enfin, c'est quand même. Tout ça, c'est assez conforme avec ce qu'avaient vu les grands anciens. Et si on allait voir à 1000 mètres un peu la salinité? Allons-y, l'océan. Il est à nous, là. N'importe qui peut faire ça. Vous pouvez y aller aussi. Hein. C'est sur. Vous allez à l'adresse ici et vous pouvez vous balader en trois dimensions dans l'océan. Alors, ça, on est à 1000 mètres et qu'est-ce qu'on voit? Les eaux rouges, c'est les eaux très, très salées, les eaux bleues moins salées. On voit l'eau méditerranéenne qui se déverse tranquillement dans l'Atlantique. Vous vous souvenez, c'était la carte en noir et blanc qu'on avait vue au début. Et qui va aller arroser les côtes de Floride. Alors, on a cet océan en 3D. On a la prévision, on a la situation du jour. Et maintenant, on fait des cartes. On en revient aux fondamentaux, mais on en fait 784 chaque semaine. On peut tout faire. On peut couper, on peut aller voir dans le futur, on peut tout faire. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a dit bon, on va faire des cartes régionales et on va faire la carte du Gulf Stream toutes les semaines avec analyse et prévision. On va une carte près de chez nous, la carte de l'océan tropical. On va, par exemple, voir ce qui se passe dans le golfe du Mexique. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un tourbillon anticyclonique très très actif, c'est la carte des courants qui est en train de se détacher, ça c'était la situation en mai. Si vous allez voir, vous verrez qu'en ce moment c'est en train de recommencer. Ça c'est un gros tourbillon, c'est assez actif, et vous savez que dans cette zone-là, il y a beaucoup de plateformes pétrolières, donc c'est des choses qu'ils vont regarder. On va reprendre les sections, les grands trajets des bateaux principaux, puis on va nous extraire des informations là-dessus, et à chaque fois on va regarder la température, la salinité, etc. Donc on a l'information qui est mesurée par les bateaux, le modèle peut nous faire en virtuel ce qu'on observe et on compare. Et à chaque fois, analyse, prévision, etc. Et puis on va reprendre les mouillages fixes qui sont faits dans cette zone-là, et on va extraire régulièrement les composantes, donc on peut tout rejouer à la maison. On prend l'altimétrie, on prend l'institut, on combine, et puis allons-y. On regarde, par exemple, en avril, on voit des choses extraordinaires parce qu'on redécouvre l'océan maintenant grâce à tout ça. On voit, par exemple, on est à 100 mètres sous la surface, un courant salé, un contre-courant salé qu'on connaissait, qui s'écrase sur les côtes, là, et qui fait une jolie gerbe. Et qu'est-ce qu'on peut confirmer en regardant sur la verticale? On prend une section ici, on voit ici une section de courant, on voit les sections associées, les courants associés à ce courant-là, qui sont à 60 cm seconde, ce qui paraît énorme. La situation aujourd'hui, c'est assez calme. Vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. C'est étonnant ce qui m'arrive là. Reprenons, vous savez, le tapis roulant, les eaux qui plongeaient en Atlantique Nord. Ah ben, on va regarder ça. Alors, le premier bulletin qu'on a fait avec Mercator, c'était en hiver. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la profondeur de couche de mélange, c'est-à-dire la profondeur des eaux qui sont complètement mélangées, qui ont les mêmes caractéristiques. Plus c'est profond, quand c'est profond, ça veut dire que les eaux sont en train de plonger. Ce que vous avez en bleu ici, c'est des zones à 800 mètres, et quand c'est en rouge, c'est que c'est quasiment à 0 mètre. Donc ce qu'on retrouve ici, c'est le principe du tapis roulant, avec dans les eaux en Atlantique Nord, la plongée en hiver des eaux, parce qu'elles sont chargées en sel et qu'elles sont froides, donc elles vont replonger. Et quand on regarde ce qui se passe en ce moment, c'est l'été, c'est assez calme, vous voyez que le tapis s'est interrompu. Donc on n'a pas de plongée en ce moment, ce qui est la situation normale. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'avec un modèle qui a assimilé l'information en altimétrie, on peut avoir des informations en température. Ce qu'on voit ici, c'est ce que voit un satellite qui observe la température, donc des eaux chaudes en rouge, des eaux froides en bleu. Et puis ici, tous les petits détails qu'on voit avec le modèle, avec en particulier des upwelling côtiers. Les upwelling, c'est des courants profonds qui viennent du fond et qui vont aller rafraîchir qui sont généralement riches en poissons, qui vont aller rafraîchir les côtes. Et donc, c'est des détails qu'on aperçoit, qu'on voit grâce au modèle qui a combiné plein d'informations différentes. Alors, est-ce que la prévision est bonne ou pas? On va au large du Brésil. Ce qu'on voit ici, c'est des cartes de courant. Je vous montre ici un tourbillon très actif qui a été prévu qu'on avait prévu pour le 11 avril à partir d'une analyse, donc ce qu'avaient vu les satellites, qui n'était pas forcément très... très facile, hein, puisqu'on ne voit pas franchement de structure très organisée, mais le modèle avait pris ses responsabilités, nous avait décrit la formation d'un gros tourbillon avec des courants qui sont de l'ordre du mètre seconde, donc c'est assez actif. On attend 15 jours, on attend que le satellite repasse pour avoir confirmation ou infirmation, et on voit que finalement le modèle n'est pas si mal, puisqu'on a confirmé après coup qu'on avait effectivement des tourbillons assez actifs. En ce moment, on a des choses pas très structurées. Et donc maintenant, on y retourne. Et je vais finir là-dessus. On a maintenant l'océan à la maison, là. Vous avez ça à la maison. Vous pouvez aller naviguer, vous balader dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne. On revient à la mer. Et là, on a par exemple une campagne, comme avant, une campagne de scientifiques qui vont aller observer cette zone. Là, vous observez les côtes Espagne-Portugal. Ils vont regarder des eaux, justement, qui sont de subduction, qui vont aller. Et bien, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils prennent leur bulletin Mercator, ils vont sur place, et ils retravaillent avec une information beaucoup plus riche et ils vont modéliser. Donc on a le satellite qui a volé, on a le modèle qui a prévu, et puis eux vont sur place, ils redéploient des instruments. Alors on voit au passage que les instruments, encore une fois, suivent bien les contours, ce qui est toujours valorisant. Mais on y retourne, mais cette fois on a complètement changé de dimension, et ça c'est grâce au satellite. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que j'ai été très français dans ma façon de présenter les choses. C'est que beaucoup plus, c'est qu'en 2004, dans 3 ans, on a rendez-vous. On a rendez-vous avec toutes les grandes nations de l'océanographie et on va faire un grand jeu, une grande expérience, l'expérience Godae, où pendant, de 2003 à 2004, 2005, pendant 3 ans, chacun des différents centres qui font de la prévision océanique de ce genre-là vont récupérer les données des satellites, les données des mesures in situ, vont faire des prévisions, on va s'échanger, on va faire de l'océanographie opérationnelle et on va jouer avec ça. Et là, le défi, il est assez énorme, parce qu'on est en train d'inventer cette nouvelle façon d'observer l'océan, c'est-à-dire l'observer de façon complètement intégrée, avec toutes les observations en même temps, d'assimiler, de représenter les choses et d'y retourner. Et le défi, et c'est mon dernier message, le défi, il est, pour une fois, non pas donné par les satellites, qui auraient encore une fois jeté le bouchon un peu plus loin, mais cette fois, c'est les modèles. Parce que ce que je vais vous montrer là, c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui, ce que ça fait aujourd'hui les modèles. Alors c'est un des modèles qui va tourner pendant les années Godae. Ce que vous voyez là, c'est la température de l'océan. C'est un modèle au 12e de degré, donc c'est 5 km. On voit bien les petites structures. J'espère que vous les voyez. Ça se passe sur 4 ans, là. La petite aiguille qui tourne, les chiffres qui défilent très rapidement, c'est les jours. Vous voyez l'océan qui respire. Cet océan-là, c'est un modèle tout seul. Il n'y a pas d'observation dedans. Alors, c'est joli et c'est assez réaliste. Mais là, le défi, il est donné parce que aux satellites qui doivent aller observer ce genre de choses, aux mesures in situ, qui doivent aller déployer tous les réseaux pour arriver à contraindre. Donc voilà maintenant le niveau d'exigence. On n'est plus à la carte générale et qu'on a amélioré assez facilement, finalement. On est maintenant avec ce niveau de détail et il faut aller l'observer. Et pour aller directement et plus précisément sur ce qu'on va avoir à faire et ce qu'auront à faire les gens qui font des satellites, on va regarder la salinité, parce qu'on ne sait pas observer la salinité par satellite. Là, c'est assez joli, hein, ce que vous voyez, c'est surveillez l'Amazone ici, qui de temps en temps, on voit de l'eau douce, qui est donc l'eau plus bleue que les autres, là, c'est la salinité qu'on voit, ou bien les Zaïres ici. Et donc, les défis qui sont lancés aux grandes agences spatiales aujourd'hui, c'est d'observer la salinité par satellite. Donc, il y a un projet qui est dans les mains de différentes équipes et qui est piloté par l'Agence spatiale européenne, par satellite ou de façon in situ. Et donc les profileurs, là c'est 3000 profileurs qui vont être lancés dans le cadre de GODAE et dont la composante française s'appelle Coriolis, doivent être équipés de capteurs de température. Ça c'est finalement assez facile, on sait faire. Et une idée, ça c'est beaucoup plus technologie et plus simple et plus difficile à maîtriser. Mais enfin, ça vaut le coup parce qu'on arrive à des choses qui sont maintenant assez jolies. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Je vous remercie de votre attention.
Vous avez beaucoup de mesures d'altitude de la surface, très peu de ce qui se passe en profondeur. Pourquoi est-ce que votre modèle arrive à tourner, être à peu près véridique, avec justement, finalement, relativement peu de mesures, sauf l'altitude? Voilà ma première question. La seconde, c'est vos collègues de la météo, ils ont très peu de mesures sur les trois quarts de température, sur les trois quarts de la planète, celle des océans. Vous arrivez avec une multitude de points où vous pouvez donner une température. Est-ce qu'ils sont impatients de connaître vos résultats pour pouvoir améliorer leur modèle?
Bon, alors, la première question, c'était la différence entre les observations, enfin le fait qu'on ait beaucoup d'observations de surface et peu d'observations au fond. Ça, c'est parfaitement vrai, c'est une vraie réalité. Les satellites, en l'occurrence, observent ce qui se passe en surface. Et d'aller observer au fond, comme je l'ai montré au début, c'est une sacrée performance, surtout qu'on en a peu. Alors, pour arriver à faire avec, parce que comme d'ailleurs mes collègues de la météo ont fait avec ce qu'on a, il y a beaucoup d'investissement qui est fait sur la méthode d'assimilation, sur cette capacité à aller contraindre un modèle à partir de ce qu'on a comme observation. Et donc il y a un des travaux que doit mener l'assimilation, c'est d'extrapoler de une observation de surface jusqu'au fond. Alors pour ça, on ne va pas entrer dans le détail, mais on a différentes méthodes qui font appel à la statistique, et on se sert du fait qu'on est allé, à certains endroits du globe, aller observer au fond, donc on peut en déduire les liens qui existent entre ce qui se passe en surface et ce qui se passe au fond, et on va essayer d'en faire un certain nombre de généralités qu'on va pouvoir extrapoler tout autour du globe. Donc ça, c'est la première chose. Ceci dit, de toute façon, on a énormément besoin d'avoir des informations au fond, même si on peut un peu tricher grâce à ça. Il y a un des enjeux, c'est d'avoir des observatoires de mesures qui vont assez profond. Ces profileurs là, qui vont de 0 à 2000 mètres, ça, c'est quelque chose, cette dimension verticale qui est apportée par ces outils automatiques, c'est quelque chose d'extraordinairement important pour ce qui va suivre et ce qui est déjà l'actualité en océanographie. Et puis il y a d'autres idées. Il y a d'autres idées qui sont dans les cartons, parce que les gens qui me font des mesures in situ sont des gens qui ont sans cesse de nouvelles idées. Et alors, il y a par exemple des systèmes qui s'appellent un système qui s'appelle EMA, qui est en travaux du côté de l'IFREMER, qui consiste à déployer, à lancer au fond de l'eau un certain nombre d'instruments, leur mettre un minuteur, Et puis quand le signal est donné, on a une sonde qui remonte, donc qui va mesurer température et salinité de la surface jusqu'au fond, non, du fond jusqu'à la surface plutôt. Donc il y a un certain nombre d'idées comme ça qui sont dans les cartons pour essayer d'améliorer ça. Enfin, le fait est qu'aujourd'hui on a peu d'observations au fond, donc on compte sur la simulation pour compenser. La seconde question, c'était il y avait une remarque avant, vous laissiez croire que l'océanographie était beaucoup plus riche en observations que la météo. Je vous ai montré une carte où il y avait 3000 petits points rouges. Ce que je n'ai pas dit, c'est que naturellement, ils ne sont pas déployés, ces profileurs. C'est un programme, ça doit être fait dans les années de 2003, 2004, 2005. Ce n'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, il y en a 300. Et les observations, il y en a peu. La révolution est effective. C'est pour ça que le satellite a apporté énormément. Mais il y a effectivement beaucoup d'efforts à faire encore pour en déployer et pour maintenir ce réseau, parce qu'on n'est jamais arrivé. Alors, est-ce que mes collègues de la météo sont impatients? Oui. Bien sûr. Non, bien sûr que... Enfin, c'est aussi c'est aussi ce qui se passe d'intéressant aujourd'hui, c'est que de plus... Je disais au début que cette observation qui a fait bouger l'océan, là, vous l'avez vu, elle a aussi rassemblé des gens. Elle a aussi rassemblé des gens parce qu'elle a rassemblé des gens qui faisaient de l'océanographie, avec des gens qui faisaient de la météo, avec des gens qui faisaient de... Donc toutes ces communautés sont rassemblées. Maintenant, on est de moins en moins enclin à discuter du système océan ou du système atmosphère. On parle du système Terre ou du système climatique. Donc on va coupler les différentes choses. Donc on va aller échanger les informations. Nous, aujourd'hui, on travaille avec des informations qui sont issues des modèles météo. Le vent, il vient des modèles météo pour forcer nos modèles d'océan. On va avoir des rétroactions. On est en train de travailler sur tout ça. Donc, ils sont impatients. Enfin, c'est une impatience partagée. C'est la même communauté qui est en train de modéliser le système Terre et qui voit avancer avec impatience les différentes composantes du système.
Oui, bonjour. Bon, d'abord, merci. Après, j'ai une question sur le point de vue. Cette information est disponible, mais vraiment, qui peut l'utiliser ? C'est vraiment les pays développés. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas donner un impulse à la différenciation? Pourquoi? Parce que les pays développés vont pouvoir réduire les coûts, par exemple, de pêche, et alors il ne peut pas avoir une compétition équitable avec les pays de tiers. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre ça à disposition de ces pays?
Alors, quel est le niveau de disponibilité de ces produits? Ces produits, aujourd'hui, ils sont disponibles pour tout le monde, pour ceux qui ont accès à Internet aujourd'hui. Donc vous pouvez y aller. Non, mais je vais répondre, je ne vais pas tricher et biaiser, je vais répondre à votre question. Donc cette information est aujourd'hui disponible. Elle est disponible dans cet état-là, c'est-à-dire que c'est une information que je considérais de la matière première pour un certain nombre d'applications. On a un champ de température, éventuellement un champ de température, ça ne sert à rien. Ça ne sert à aucune application. Ce qui va être intéressant, par exemple, c'est d'aller jusque, si on parle de l'application pour la pêche, c'est d'aller jusqu'à une carte qui va aller décrire des zones de forte activité halieutique pour telle et telle espèce. Donc il y a encore un maillon entre la sortie du modèle qui décrit l'environnement et puis le produit qui va servir une application. Alors c'est à ça que vont être consacrées les prochaines années, à essayer d'abord d'identifier quelles sont les applications intéressées et intéressantes, et puis à aller travailler là-dessus. Et qui travaille sur ce genre de sujet aujourd'hui, ma meilleure caution, entre guillemets, pour traiter de ce sujet-là, c'est que dans les 6 partenaires, je suis passé très rapidement sur le transparent qui montrait les 6 agences qui travaillent aujourd'hui sur un projet comme Mercator. C'est important parce qu'on a donc le CNES, qui est une agence spatiale. On en comprend bien naturellement l'importance. On a l'IFREMER, qui s'occupe de ces affaires de recherche liées à l'exploitation de la mer. On a l'IRD, c'est à lui que je voulais en venir, qui est l'Institut de recherche pour le développement, qui travaille en liaison avec les pays qui sont éventuellement moins développés que les nôtres. Et puis, on a naturellement le CNRS, qui est également, IFREMER, IRD, CNRS, ont une approche de chercheur et pas forcément une approche opérationnelle. Donc, c'est intéressant d'avoir cet équilibre. Et prendre la Météo France, et puis le CHUM. C'est très ouvert comme discussion aujourd'hui, et c'est tellement ouvert que dans une expérience internationale comme Godae, qui est cette espèce de grand jeu qui va se jouer de 2003 à 2005, il a été décidé d'emblée que tous les produits seraient disponibles. On va s'échanger tous ces produits-là. On va développer un certain nombre de produits, d'applications, mais le but n'est pas aujourd'hui de restreindre et de limiter le marché à un certain nombre d'applications éventuellement payantes, etc. Au contraire, on a bien conscience que le marché n'existe pas aujourd'hui et que pour ça, il faut le faire vivre, il faut le faire germer. Et donc, tout est ouvert aujourd'hui. Et ça se joue au niveau de sociétés privées qui font de l'applicatif, mais également au niveau de laboratoires de recherche. Et une méthode, un état d'esprit de chercheur, c'est rarement d'aller privilégier tel et tel pays développé par rapport à un autre.
En ce qui concerne la salinité, s'agit-il uniquement de celle du chlorure de sodium ou bien des salinités de l'ensemble des sels, chlorate, phosphate et autres nitrates? Oui, il comprend bien. Ce qui m'intéresse, c'est la question des nitrates. Je suis allé en Bretagne il y a une huitaine de jours. Il y avait beaucoup de verdure sur les plages, au point que je me suis demandé s'il n'y avait pas intérêt à y faire paquer les pêtres, dit-on, les moutons pour obtenir les fameux gigots de présalé. Merci.
Je ne suis même pas certain qu'il y avait une question, là, effectivement. Non, oui. La vérité, c'est que j'en sais rien. Mais... Pour aller directement à ce qui vous intéresse, là aussi, je voudrais préciser une chose, c'est que les modèles qu'on fait tourner là, qui sont des modèles qui décrivent l'océan complet, l'océan du large, ils ont besoin, encore une fois, d'une interface entre ça et puis le côtier ou le littoral. Et donc, il y a des projets qui sont montés avec les différents organismes que j'ai cités tout à l'heure, et dans l'occurrence l'IFREMER, par exemple, sur un sujet pareil, va aller développer des modèles côtiers qui vont décrire toutes les différentes composantes et aller traduire ça en informations utiles pour le littoral ou pour l'aquaculture, etc., ou la pollution de l'environnement, et qui vont aller coupler en fait, au large avec le modèle comme le modèle Mercator ou un autre pour aller extraire cette information-là. Il y a également ça me permet également d'expliquer qu'aujourd'hui, on a pas mal travaillé sur la dynamique du système. Enfin, historiquement, on a commencé par travailler sur la dynamique, donc les courants. On a introduit ensuite les aspects thermo-alin, donc température et salinité, et que l'étape qui suit, qu'on n'a pas encore franchie à ce stade, mais qui est déjà franchie au niveau recherche, c'est d'aller introduire la biologie, la géochimie dans les modèles qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est au stade thermo-alin.
Oui, bonjour monsieur. Hier, on a parlé du climat et donc du réchauffement de la planète. Donc, j'ai reposé la même question que j'ai posée hier. Qu'en est-il des courants océaniques? Est-ce que vous avez modélisé ce qui allait se passer dans le cadre du réchauffement?
Je ne sais pas ce qui vous a répondu hier, il faudrait que je réponde. Non, là sérieusement, il y a une question d'échelle de temps qui est importante. Alors, vous avez vu là qu'on a modélisé tous les courants océaniques. En l'occurrence, on a commencé par la partie atlantique, mais donc d'ici deux ans, on aura couvert l'océan global. Donc tous les courants sont correctement modélisés. On peut en prévoir les évolutions en 15 jours à l'avance. Pour commencer à apprécier s'il y a des évolutions ou des variations qui sont importantes à l'échelle du climat, il faut pour ça avoir des longues durées d'observation ou de modélisation, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Le modèle a démarré en temps réel il y a 6 mois et on a démarré 3 ans auparavant. Donc on a 3 ans de recul, si vous voulez. Alors il y a une des questions, par exemple, qui est évoquée, c'est est-ce que le Gulf Stream ne va pas s'arrêter, s'inverser, etc. C'est naturellement des choses qu'on ne voit pas avec ce genre de recul. Il faut pour ça des modèles qui vont être avec des mailles plus lâches, donc moins coûteux en temps de calcul, et qu'on va aller faire tourner sur des centaines d'années. C'est très lié, mais ce n'est pas exactement le même genre de modèle qu'on va faire tourner. Donc là, la réponse est que... Enfin, moi, je vois rien. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien.
Je veux vous remercier d'abord pour la clarté de votre exposé et le spectaculaire des images animées que vous nous avez montrées. Ça nous a éblouis. Vous dites que vous pouvez faire des prévisions à 15 jours pour les températures, les courants et tout ça sur l'océan. Ça devrait pouvoir aider vos collègues de la météo à faire des prévisions longues, il semble, ça, si vous avez la température déjà.
Oui, bien sûr. Et donc il y a des échelles théoriques qui ne peuvent pas être franchies. Donc quand on considère l'atmosphère seule, on a aujourd'hui des prévisions à 7 jours, on a une limite théorique à 15 jours. L'océan, considéré seul également, a une limite de prévisibilité. Donc aujourd'hui, on a 15 jours, on pourrait faire un mois. Hein. Mais on reste dans cette échelle de la semaine. Pour aller au-delà, il faut coupler les deux. Pour faire des prévisions fiables à l'échelle de la saison, Il faut coupler l'océan et l'atmosphère parce qu'à ce moment-là, les interactions entre les deux systèmes sont très importantes et c'est eux qui vont donner en fait la signification sur ces longues durées. Pour aller à l'échelle de la saison, donc on couple ça. Pour aller à l'échelle de la dizaine ou la centaine d'années également. Donc naturellement, mes collègues de la météo, je précise que Météo France était également partie prenante de ce projet-là. Hein, donc, disons que la communauté météo est naturellement intéressée par ces résultats-là et on a aussi des applications qui partent dans ce sens-là. On va travailler sur des... Alors il y a l'échelle globale et il y a également à l'échelle d'un bassin comme l'Atlantique. On peut prendre le modèle d'océan sur l'Atlantique, le coupler avec un modèle d'atmosphère sur l'Atlantique et voir si on peut améliorer la prévision de l'atmosphère à cette échelle régionale. Tout ça, c'est en travaux.
Merci beaucoup. À propos du site internet Mercator, est-ce qu'on peut avoir les belles images animées que vous nous avez montrées ou bien est-ce que c'est
un peu... Non, sur le site, en ce moment, il n'y a pas d'images animées. C'est pas un choix, c'est parce que voilà, on n'a pas eu le temps de mettre des images animées. Il y en aura. Il faut surveiller.
Merci beaucoup. C'était très beau.
Pierre Bahurel, je vous remercie.